Alors, vous êtes bien sur Eau de Radio et on se retrouve comme chaque mercredi entre 11h et 12h pour une émission Onde du Vivre Ensemble. Depuis juillet dernier, Eau de Radio pilote le projet Onde du Vivre Ensemble en partenariat avec l'Écho des Collines et cofinancé par le FEI, un projet qui comporte deux axes. La formation d'abord. Eau de Radio et l'Écho des Collines forment des jeunes étrangers à la réalisation d'émissions radio et d'articles presse. Vous pouvez retrouver une émission confectionnée par ces jeunes tous les vendredis du mois entre 16h et 17h à l'écoute d'Eau de Radio 91.3 FM ou sur le site internet www.eauderadio.net. Et chaque mois, une double page est consacrée aux articles de jeunes dans le mensuel de la rive droite de l'agglomération bordelaise, l'Écho des Collines. Les sujets choisis sont en lien avec le fonctionnement de la France. En juillet, août, septembre, nous avons abordé le travail. En octobre, novembre, décembre, le système social français. Et pour ce trimestre, janvier, février, mars, la devise liberté, égalité, fraternité. Voici pour l'axe formation. L'axe information, lui, suit les thématiques ciblées chaque trimestre et nous vous proposons deux fois par mois une émission réalisée sur cette thématique. En ce mois de février 2013, c'est l'égalité qui est au programme de nos ondes. Et vous allez tout de suite retrouver un débat enregistré le 1er septembre à l'occasion du festival Planète Floirac, co-organisé par Eau de Radio, l'ASTI, le collectif pour l'égalité des droits en partenariat avec le centre social du Haut Floirac dans le parc du rectorat, dans le quartier de Ravemont. Débat sur le thème « Filles, garçons, femmes, hommes, quelle initiative locale ?» avec Edith Marie Jules, doctorante en géographie à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, bourse de thèse financée par le CRA. Edith Marie Jules nous présente son sujet de thèse, mixité, parité, genre dans les équipements et les espaces publics destinés aux loisirs des jeunes. Avec comme médiateur Cherceau, anthropologue de formation chargé de mission au CLAP Sud-Ouest, formateur en communication interculturelle et démarche participative, conteur et chanteur du groupe Afro-Guinguette. Tout de suite, vous retrouvez la discussion avec Edith Marie Jules. Vous retrouverez notre prochaine émission mercredi prochain entre 11h et 12h et sur internet sur www.audoradio.net.
Ok, on va donc commencer cette deuxième rencontre autour de la question des garçons et des filles, des hommes et des femmes, les questions de discrimination. Dans le cadre de ce festival Planète, qui a l'habitude et la tradition de toujours articuler concerts et discussions et débats. Alors c'est une question effectivement qui traverse l'histoire, mais peut-être que c'est maintenant qu'on commence à en parler, on commence juste je pense à en parler. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui a travaillé dessus, Edith Marie Jules, qui est doctorante en géographie à DCNRS, Université Michel Montaigne de Bordeaux 3, qui a reçu une bourse de thèse financée par le Conseil régional d'Aquitaine. C'est toujours important de dire qui a financé tout ça, vous savez. C'est... voilà. Et donc, elle va nous faire part des résultats d'une recherche qu'elle a menée sur la mixité, parité, genre, dans les équipements et espaces publics destinés aux loisirs des jeunes. Elle a apparemment travaillé sur trois territoires. Elle en parlera mieux que moi. Donc, vous voyez, c'est donc une femme qui parle des rapports de genre. Alors, nous, les hommes, on est là juste pour faire de l'animation. Et puis, on aura Valérie Ministrini Moreau, qui a gagné le concours L'Épine, médaillé de bronze, sur donc un prototype dont elle vous parlera. Ça montre bien aussi que hein, dans ce domaine-là, les femmes ont des idées, et même des fois des idées dont on aurait bien avoir l'originalité. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et qui est accompagné ou qui est avec Mamadou Kouma du CIS, donc c'est le centre d'insertion sociale économique, particulièrement auprès des femmes, donc qui va témoigner de ça. Donc, Edith, peut-être on va commencer par toi, si tu veux bien, si la présentation que j'ai faite n'est pas... Hein, tu peux en dire. Alors, il paraît qu'il faut bien parler dans le micro. Edith, s'il te plaît.
Merci, cher. Bonjour à toutes et à tous. Merci au collectif Planète de m'avoir convié à débattre avec vous sur mon sujet de thèse, puisque ça n'a d'intérêt que si on peut le partager ensemble et puis en débattre donc de manière citoyenne. Simplement, donc je suis doctorante, ça fait 3 ans que j'ai commencé cette thèse en décembre 2009 et je la rédige, donc j'ai fini tous mes terrains et je la soutiendrai en décembre 2012. Donc c'est un travail qui aboutit, qui n'est pas sur son commencement. Ce qui a motivé en fait ce travail, c'est parce que je suis une vieille doctorante, c'est 10 années de travail sur le terrain aussi, notamment sur cette commune où j'ai été responsable de ce qu'on appelle les politiques jeunesse. Voilà. Et lors de ce travail déjà, je m'étais posé la question avec mes collègues et l'ensemble des personnes qui interviennent sur ces secteurs de la place des filles, notamment au moment de l'adolescence, dans l'animation et la jeunesse, voilà, qui était déjà prégnante avec ce qu'on avait remarqué, qui est l'idée forte de ma thèse, ce qu'on appelle le décrochage, c'est-à-dire le fait que les filles, à un moment donné, quand elles vont passer au collège, vont disparaître un peu de l'espace public, en tout cas financé par les municipalités et par l'État. Ces espaces-là de loisirs vont plutôt bénéficier aux garçons. Donc ce qui a motivé mon travail, ça a été 2 questions. La première, c'est celle de la mixité, c'est-à-dire le fait d'être ensemble filles-garçons. On verra, ça a une importance puisque la question, elle n'est pas simplement d'un rééquilibrage en fait d'un loisir fille, mais bien d'endroits au moment de l'adolescence où les filles et les garçons sont ensemble pour pratiquer un loisir. Voilà, donc ça, c'est la question que je me suis posée. Et puis, de manière aussi évidemment sous-jacente, ou en tout cas dans le débat public, hein, puisque ce que j'interroge, moi, ce sont les politiques publiques, bien plus que les jeunes eux-mêmes dans leur loisir, c'est la question de l'égalité, c'est-à-dire de l'égal accès des filles et des garçons, et de la redistribution tout simplement de l'argent public sur le loisir filles-garçons au moment de l'adolescence, et comme on le voit aussi, plus tard sur le loisir des femmes et des hommes. Donc on m'avait demandé, puisque la question de l'égalité en France, elle est ce que j'appelle un peu invisible, puisqu'il y a effectivement une égalité en droit dans ce pays. Hein, donc les femmes ont acquis cette égalité en droit avec les hommes, et simplement c'est une égalité qui date de pas très très longtemps, donc je ferai simplement quelques rappels sur des dates pour comprendre cette égalité en droit. Et ce que je vais essayer de montrer, moi, c'est comment cette égalité en droit, elle permet pas encore aujourd'hui à notre pays d'avoir une, ce qu'on appelle une égalité de traitement entre les filles et les garçons, puis plus tard dans le milieu professionnel, mais aussi dans la prise de parole publique, dans la question de la représentativité électorale, une égalité entre les femmes et les hommes. Rapidement, parce que il y a beaucoup de textes hein, qui concernent ces questions-là, je vais essayer de rester peut-être au XXe siècle, ça sera plus pratique. Je rappelle simplement ce qu'on rappelle toujours. Hein. Peut-être ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en 1938, il y a la suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée. Donc jusque-là, la femme qui était mariée n'avait pas de capacité juridique. Donc en 1944, hein, le droit de vote est d'éligibilité pour les femmes dans notre pays. En 1946, la suppression de la notion de salaire féminin. Hein, jusque-là, il existait donc un salaire différencié entre les femmes et les hommes. En 1965, les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Hein, voilà. Donc en 1967, hein, la loi Neuwied autorise la contraception. En 1970, l'autorité parentale remplace la puissance paternelle. En 75, bien sûr, la loi Veil pour l'interruption volontaire de grossesse. Et je rappelle simplement que l'IVG ne sera remboursé qu'en 82, hein, par la Sécurité sociale. Donc la loi est promulguée en 75, mais l'intervention volontaire de grossesse n'est remboursée qu'en 82. Donc jusque-là, c'était un acte qui était payant pour les femmes. Donc en 76, ça c'est une date importante, la mixité devient obligatoire pour tous les établissements scolaires publics. Hein. Hein, jusque-là, donc, la mixité n'était pas décrétée. En 84, le congé parental est ouvert à chacun des parents. Ensuite, donc on a en 99 la création du PACS et en 2000 une loi qui promulgue, c'est la première loi sur la parité en politique, hein, donc cette grande histoire, grand débat ou dispute nationale sur la question de la parité. Puis en 2002 la création du congé de paternité et en 2002 également l'enfant peut porter le nom de ses deux parents. Voilà. Et en 2008, simplement pour finir, l'inscription dans la Constitution de l'égal, donc dans la Constitution hein, française, de l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Voilà. Donc là, je vais donc rapidement, hein, je m'en excuse parce que ça, c'est, on n'a pas assez de temps, il faut qu'on débatte aussi. Vous exposer les résultats de ma thèse. Simplement vous dire que j'ai travaillé sur 3 communes de la communauté urbaine bordelaise, 2 qui se trouvent sur la rive droite. Et une sur la rive gauche. Mon inquiétude, en tout cas ma volonté en choisissant ces territoires, c'était de montrer aussi qu'il y a des constances et que on doit sortir d'une image peut-être un peu stéréotypée en parlant, par exemple, toujours cette question de filles-garçons dans les quartiers populaires. La commune que j'ai choisie sur la rive gauche, c'est ce qu'on qualifie d'une commune bourgeoise. Donc, elle se compare hein, sur le taux d'imposition des habitants, le pourcentage de travail des femmes. Enfin, voilà, c'est sociologiquement très construit en fait, avec des indices de précarité. Donc on a 3 communes, hein, une privilégiée et 2, une un peu, disons, moyenne et une défavorisée. Voilà. Hein. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé pendant une année de pratique, hein, donc une année complète, où étaient allés les filles et les garçons sur 3 espaces, l'espace sportif, hein, donc les clubs, mais aussi le sport qui est proposé en école municipale des sports ou le sport qui est proposé à l'école, les vacances sportives, etc., pour comparer en fait le milieu associatif et le milieu, on va dire, municipal hein, en termes de redistribution. J'ai regardé les pratiques artistiques et culturelles, sur l'ensemble des territoires, et enfin ce qu'on appelle les maisons jeunesse en fait, hein, donc les centres de loisirs, mais pour les préados et adolescents. Donc le premier constat que j'ai fait, donc toujours sous l'angle de la mixité, hein, le fait d'être ensemble quelque part. Donc les loisirs des jeunes à l'entrée dans l'adolescence, donc qui correspond donc pour les besoins de ma recherche à l'entrée au collège, hein, vous l'avez compris, puisque c'est difficile de déterminer exactement à quel âge on est adolescent. Par contre, l'entrée en sixième, bon ça on peut le trouver. Donc ne sont pas mixtes, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de lieu dans lequel les filles et les garçons se trouvent ou se retrouvent pour partager une activité ou simplement un moment ensemble dans un espace ou un équipement public qui leur sont dédiés. Donc ça, c'est le premier constat que j'ai fait sur l'ensemble de ces 3 terrains, de ces 3 grandes structures, sport, activité artistique et culturelle et maison des jeunes. Donc il n'y a pas de mixité. Donc sur le sport, 2 pratiquants sur 3, donc âgés entre 6 et 18 ans, d'un sport en club sont des garçons. C'est la même proportion lorsque la pratique sportive est proposée par les municipalités sous la forme de sport découverte. Donc là aussi, c'était intéressant de remarquer que directement géré en fait par les municipalités, on n'arrive pas à rééquilibrer non plus la pratique sportive. Donc simplement rapidement, parce que on en parlera si vous le souhaitez, mais sur les 40 sections sportives analysées, c'est-à-dire les clubs, hein, tout ce qu'on appelle association foot, rugby, tous ces clubs-là. Il y a seulement 2 disciplines qui comptent autant de licenciés filles-garçons, qui sont l'athlétisme et le badminton. Et ça représente en tout, hein, sur l'ensemble de ces 40 sections, simplement 250 sportifs et sportives. Les disciplines donc qui comptent donc plus de 70% de pratiques masculines sont le football, hein, 97,3, le rugby, 95,5, le basket 80,20, le tennis 77,23 et le judo 73,27, soit 1540 licenciés. Donc ce sont des sports qui sont à majorité occupés par des garçons. Hein. Et les sports qui sont à grande majorité féminines sont donc ce qu'on appelle le turling bâton et turling danse. Donc qui là sont occupés à 100% par des filles, il n'y a aucun garçon qui pratique cette activité-là. Et la gymnastique sportive, donc ça représente 500 licenciés. Donc vous voyez 250 où ils sont à égalité de pratique, 1540 où il n'y a pratiquement que des garçons, et 500 hein, où il y a uniquement des filles. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que de manière globale, lorsqu'on regarde les 40 sections sportives, on a deux garçons pour une fille qui pratique. Ça ressemble à ce qu'on appelle un critère de mixité chez nous, puisqu'on considère qu'en fait, la mixité, c'est quelque chose de comptable dans un premier temps, c'est-à-dire c'est le renversement d'un rapport de force, c'est 70-30. On considère que, par exemple, si on a 3 filles pour 7 garçons, il y a la possibilité de créer du mélange. Ce qui n'est pas le cas si on a un rapport de force de 9 pour 1, par exemple. Une pratique où il y a 9 garçons et une seule fille, on considère qu'il n'y a pas de mixité. Voilà. Donc, dès l'école primaire, les stéréotypes de sexe sont importants dans le choix d'une activité sportive, mais ça va se renforcer au moment de l'adolescence. Mais déjà, la pratique en primaire, c'est-à-dire à partir de 6 ans, le choix d'un sport est déjà sexué. Mais des espaces où il pourrait y avoir des filles, lorsqu'on va rentrer donc dans du sport beaucoup plus compétitif ou avec des équipes qu'on va valoriser sur des championnats, etc. Donc là, on va avoir beaucoup de difficultés à trouver des équipes féminines. Et en tout cas, il n'y a plus de pratique ensemble. C'est-à-dire que les filles et les garçons ne jouent pas en même temps au sport. Donc on le voit, quand on prend le critère de non-mixité, c'est-à-dire les endroits où il y a seulement des filles ou seulement des garçons, c'est 3 fois plus de garçons que de filles qui sont soutenus dans leur activité sportive. Donc ça, c'est important aussi à regarder, c'est-à-dire que dire, par exemple, on va faire des sports de filles et des sports de garçons, eh bien là encore, c'est les garçons qui vont être beaucoup plus valorisés et soutenus dans leur activité que les sports de filles, en fait. Donc la non-mixité devient une régularité à partir du collège, hein, que ce soit dans des clubs donc entre guillemets mixtes, ayant des entraînements et des compétitions séparées, par exemple le volley, l'athlétisme et la natation, bien qu'il y ait autant de filles que de garçons qui soient à l'athlétisme et la natation, à partir de l'entrée au collège, il n'y a plus de pratique ensemble, c'est ce que je vous expliquais en fait. Voilà. Donc c'est toujours l'idée, se retrouve-t-on ensemble ou partage-t-on ensemble une activité ? Donc, des activités qui deviennent de fait totalement non mixtes, on l'a vu, hein, football et rugby masculin, gymnastique et hurling féminin. Donc on pourrait penser que les pratiques culturelles sont plus féminines que les pratiques sportives, hein, c'était peut-être ce qu'on appelle un premier stéréotype, c'est-à-dire les filles ne sont pas au sport donc elles sont à la culture, hein, par compensation ou pour des choix liés aux stéréotypes, le fait que... Effectivement, mais les chiffres montrent au contraire que les filles sont à peine plus présentes que les garçons dans les médiathèques et les écoles de musique. Hein, donc pour les 3 communes, pour les écoles de musique, on a 48% de garçons pour 52% de filles. Donc on est pratiquement à ce qu'on appelle chez nous la parité, c'est-à-dire 50-50. En médiathèque, il y a 51% d'emprunts filles pour 49% d'emprunts garçons. Donc la tranche d'âge que j'ai étudiée, ce sont les 6-18 pour le sport et les 8-20 ans pour les activités artistiques et culturelles. Donc comme pour les pratiques, là pour le coup ils seraient ensemble, vous voyez, dans les écoles de musique. Mais ce qu'on va voir, donc toujours cette question, est-ce qu'ensemble on pratique quelque chose ? Comme pour les pratiques sportives, les stéréotypes de sexe sont très forts dans le choix des instruments et des activités. Batterie, trompette et guitare pour les garçons. Violon, harpe, flûte, traversière pour les filles. Donc à mi-chemin entre sport et pratique artistique, les différentes disciplines de danse répertoriées sont exclusivement féminines. Ce qui m'amènera à poser comme question dans ma thèse, comment une société peut-elle accepter que les garçons ne dansent pas, par exemple, hein ? Donc c'est l'idée très forte qu'aujourd'hui, il y a une forme d'interdit de genre, hein, qui fait que la danse n'est pas tenable de manière identitaire pour les garçons. Hein. C'est quand même très... puisque ces écoles sont au départ mixtes, hein, enfin accueillent des garçons, bien sûr. Donc le décrochage des pratiques artistiques académiques est compensé dans les 3 communes étudiées par une proposition alternative offerte par les espaces jeunesse, souvent appuyée par les équipements régionaux spécialisés dans les musiques actuelles. Donc les cours de danse hip-hop proposés dans les espaces jeunesse sont majoritairement féminins, mais accueillent quelques garçons attirés par les pratiques de rue, donc les cultures urbaines. Des ateliers rock et des espaces de répétition permettent aux jeunes de s'initier aux techniques d'une façon basique pour pouvoir rapidement créer leur groupe musical. Ces pratiques sont des pratiques masculines. Hein, donc l'idée aussi de mon travail était de montrer que dans la pratique, donc on va dire académique ou en tout cas encadrée, hein, qu'elle soit sportive ou culturelle et artistique, il y a de toute façon au moment du passage au collège une forte déperdition des jeunes. Hein, très peu de jeunes vont continuer, par exemple, en école de musique avec une forte exigence en fait hein, par rapport à l'instrument, par rapport au temps que ça demande. C'est pareil dans la pratique sportive hein, qui devient et puis qui en plus, mais on en débattra ensemble. Je sais qu'il faut pas que je prenne tout le temps, donc simplement qui devient très compétitive. Et qui de toute façon trie les garçons, hein, hein, puisque un garçon costaud physiquement, un garçon lent, un garçon qui n'aurait pas la technicité, par exemple, ne peut plus participer en fait aux championnats, enfin aux compétitions sportives. Hein, c'est ce qu'on appelle le banc de touche en football, par exemple. Hein, donc ça crée aussi l'activité sportive une forme de discrimination, hein, enfin en tout cas une forme d'exclusion par rapport à la manière d'appréhender l'activité sportive, puisque moi, ce que je vais reposer comme question dans mon travail, c'est qu'en est-il aujourd'hui de ce qu'on appelle l'activité physique et sportive, c'est-à-dire le fait d'entretenir son corps, d'être dans une pratique saine hein, par rapport à sa santé aussi, et qui devient donc galvaudée ou complètement dirigée sur la compétition, qui exclut de fait donc les filles, hein, puisque la pratique masculine est bien plus valorisée, mais aussi tout ce qu'on appelle les autres garçons, hein, et aussi la pratique ensemble, la pratique en famille, la pratique intergénérationnelle. Donc lorsqu'il y a ce décrochage, les garçons vont investir ce qu'on appelle l'espace public, qu'ils vont trouver légitime. Alors là, c'est une question qu'on se posera ensemble. Hein, pourquoi les filles, elles, n'arrivent pas à réinvestir les espaces, type city stade, équipement, gymnase ouvert, mais aussi les pratiques de rue, la pratique de musique amplifiée. On voit que il y a très peu de pratiques autodidactes chez les filles, par exemple, c'est-à-dire la création d'un groupe de rock, la répétition dans des endroits complètement ouverts. Donc simplement, je finis donc sur les maisons des jeunes. Hein. Donc plus inquiétant encore, c'est l'analyse des maisons des jeunes qui marque une véritable interrogation sur la possibilité d'être ensemble filles et garçons dans le loisir. Alors pourquoi elle est encore plus prégnante cette question-là dans cet endroit-là? Parce que la maison des jeunes, c'est un équipement qui est dédié à l'activité des jeunes, basé sur le projet, la construction de son loisir. C'est un lieu d'écoute et d'immobilité aussi, de retrouvailles et d'amitié. La maison des jeunes apparaît comme le lieu dégagé des stéréotypes de sexe. Ce n'est a priori ni sportif ni artistique, hein, c'est un endroit pour les jeunes, donc voilà, il y a moins d'empreintes, si vous voulez, à la fois par le groupe de pères, mais aussi peut-être par le groupe familial, hein, peut-être que c'est difficile aujourd'hui pour un papa et une maman d'accepter que son garçon aille à l'école de danse, mais la maison des jeunes n'a pas, si vous voulez, une étiquette sport de garçon, sport de fille, voilà, pratique de fille, pratique de garçon. C'est pourtant là que se joue le plus fort décrochage des filles. Alors que les filles et les garçons fréquentent à égalité les mêmes bancs du centre de loisirs. Donc la maison des jeunes, c'est ce qui vient comme équipement après le centre de loisirs. Vous savez, quand vous laissez les enfants à la journée jusqu'à 11-12 ans, puis ensuite c'est un mode d'accueil qui est beaucoup plus libre d'accès, mais ça correspond un petit peu au même type de... En tout cas, c'est du personnel qui est formé sur les mêmes engagements, avec la même pédagogie, hein, sur le loisir des jeunes. Donc, accueil à la journée proposé jusqu'à 12 ans, les maisons des les centres de loisirs, elles ne sont plus qu'un tiers à bénéficier de l'équipement maison des jeunes. Le temps de présence des filles dans les espaces jeunesse est moins important que celui des garçons. Leur participation est souvent circonscrite à des activités qui leur sont spécifiquement dédiées, danse hip-hop, gym, réalisation de projets entre filles. C'est-à-dire que même lorsqu'elles arrivent à aller dans les maisons des jeunes, elles vont encore reconstituer un groupe non mixte. Hein, donc voilà, j'ai par exemple étudié donc de manière très exhaustive, hein, c'est-à-dire qu'on a compté, j'ai regardé les inscriptions, etc. J'ai étudié donc sur les communes des maisons des jeunes, par exemple, où il n'y a jamais, où il y a eu zéro fille, hein, qui sont venues le mercredi simplement pour fréquenter la maison, construire un projet de loisir. Elles ne viennent que sur un atelier spécifique qui leur est dédié ou pour un projet fille, mais elles y passent pas du temps d'immobilité, du temps de rencontre, etc. Le passage d'un loisir mode de garde à un loisir choisi, puisque la question aussi qui était importante dans mon travail, c'est la question du choix, hein. Donc y a-t-il possibilité de choix au même titre pour les filles que pour les garçons? C'est aussi ça que j'ai posé comme question, puisque là, on va dire, j'ai envie de faire cette activité, bien plus que je dois faire garder mon enfant. Donc on voit bien la différence, voyez, entre le centre de loisirs et la maison des jeunes. Donc le passage d'un loisir mode de garde à un loisir choisi pour soi, qui correspond au passage de l'école élémentaire au collège, amorce un progressif retrait des filles des équipements de loisirs et de fait de l'espace public. Hein, ça aussi, c'est une question qui a été dans ma problématique. D'autre part, les garçons, même si eux aussi abandonnent en nombre les pratiques de loisirs encadrés, donc vont investir ou réinvestir les espaces publics en accès libre, type city stade, skate park. Donc on l'a vu, un lieu de répétition. Donc ça, on en a parlé. Donc simplement, je vais terminer sur la question que j'appelle la question de la politique publique, hein, la question de la redistribution et de la place de chacun d'entre nous, professionnels, puisqu'on est dans un centre social ici, mais bien sûr élus, mais aussi citoyens, hein, et citoyennes de ce pays, hein, sur cette question de la place des filles et des garçons. Donc premièrement, sous couvert d'une égalité de droit qui est acquise, hein, on l'a vu, entre les femmes et les hommes, des inégalités de traitement demeurent. C'est ce que j'appelle l'égalité réelle et l'inégalité réelle entre les filles et les garçons, qui ne résiste pas à une analyse objective de la répartition sexuée des loisirs des jeunes. Au moment des premiers choix, je veux, je ne veux pas, pratiquer telle activité, exercer tel métier, s'organise un aiguillage plus ou moins conscient qui va ouvrir les possibles aux garçons, plus de choix, légitimation d'occupation de l'espace public, et enfermer aux filles des pratiques dites féminines peu nombreuses, toujours calquées sur la grâce, le calme. Vous voyez, la danse, par exemple, c'est pas considéré comme un sport. Enfin, c'est quand même physiquement très dur, la danse. Mais c'est pas classé dans une activité sportive. Donc, voilà, à chaque fois que les filles sont relayées sur des domaines, sont des domaines qui ont une valeur un peu différente que celle des domaines masculins. Un repli sur l'espace privé aussi, et ça, je pense que c'est une question qui est très importante, qui va être ce que j'appelle durable dans la vie des femmes. Elles vont être habituées à être sur l'espace privé et bien plus que sur l'espace public. Et de là, on va retrouver aussi dans notre pays démocratique cette problématique aussi de prise parole de politique, hein, de représentation politique des femmes, qui vient peut-être à ce moment-là où il y a cet aiguillage. Donc en découle des apprentissages différents en termes de prise de parole publique, d'occupation et de défense du territoire. Donc on l'a vu, qui sont durables dans l'organisation sexuée d'une vie de la majorité de femmes et d'hommes, et de manière plus globale dans l'organisation sexuée de notre société. Donc une représentation sexuée des lieux de pouvoir. Les femmes sont les travailleuses pauvres, hein, 80% des travailleurs pauvres sont des femmes. La division sexuée du travail, donc une femme sur deux qui travaille occupe 22 métiers sur 227 possibles. Et enfin, un thème aussi qui est important, bon, qui sont quand même les violences envers les femmes. Donc deuxièmement, c'est la question du mélange. La notion de mixité est centrale dans l'approche théorique et pratique de la recherche menée sur le loisir des jeunes. Bien que peu théorisée dans la pensée féministe, elle est omniprésente dans le débat et fait sens dans l'analyse proposée de ma thèse. Donc on l'a vu, hein, la mixité, c'est avant tout un calcul d'un rapport de force. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme le disait Geneviève Freys, il n'y a pas d'humanité ni de sexualité sans mélange, c'est un fait d'expérience. La mixité est la condition indispensable de la remise en cause des stéréotypes et des assignations de genre, mais elle n'est pas suffisante. L'évidence du mélange ne garantit pas l'égalité. Par exemple, les femmes et les hommes se côtoient dans le bus, dans la rue, au centre commercial. Les filles et les garçons sont éduqués ensemble, en tout cas à l'école, à la crèche, au centre de loisirs. Et pourtant, les inégalités demeurent. Dépasser l'évidence est interroger le sens et ajouter le projet. La mixité doit donc s'accompagner d'un idéal, d'une utopie et s'adjoindre le principe républicain de l'égalité. Donc, c'est en pensant le mélange avec le projet de déconstruction des stéréotypes sexués, donc c'est là, en fait, où il y a... C'est-à-dire qu'il faut mettre ensemble les filles et les garçons, mais aussi interroger leur manière de se voir et de se créer identitairement. Et à mon avis, c'est dans l'espace éducatif, donc dans les centres sociaux, dans les maisons des jeunes, mais aussi probablement dans une pratique sportive ensemble, en disant, mais toi, la fille, tu as ta place autant que le garçon, tu as une technicité aussi, en tout cas le sport, c'est peut-être autre chose que toujours gagner. Donc c'est en déconstruisant les stéréotypes sexués, en passant par la remise en cause de la division sexuée du travail, que la mixité prend son vrai sens et son contenu scientifique aussi, qui peut être alors analysable et évaluable. C'est la condition au changement. En tout cas, sur les espaces et équipements de loisirs des jeunes, il est certain que deux fois plus d'offres subventionnées s'adressent aux garçons. La question de la redistribution et de la justice sociale peut être posée. Au-delà, on retient dans cette recherche que la non-mixité, c'est-à-dire la séparation des activités filles et des activités garçons, renforce les inégalités. Dans ce cas de figure, ce sont les activités masculines qui vont être bien plus valorisées et donc soutenues. Donc le fait marquant, on l'a vu, c'est le décrochage des filles, hein, qui n'est pas sans lien avec la mise en place d'une politique publique de réponse ou de prise en charge de ce qu'on appelle le décrochage scolaire des garçons. Alors ça aussi, c'était quelque chose que j'ai vu dans mon travail. On entend beaucoup parler du décrochage scolaire des garçons. Les politiques publiques se sont attachées à répondre, qui est quelque chose qui est légitime, hein, bien évidemment. Mais la réponse s'est axée sur le rattrapage de ces garçons sur les espaces dédiés, hein, les espaces publics, mais aussi à travers l'intervention sportive, avec donc tous les discours, hein, sur la question de la canalisation de l'espace éducatif. Et du coup, on a oublié aussi les filles qui, bien qu'elles réussissent mieux en situation scolaire, hein, elles ne sont pas aujourd'hui dans notre pays au niveau du travail, hein, les travailleuses en situation, si vous voulez, bien plus privilégiées que les hommes, bien au contraire. Les femmes aujourd'hui occupent encore les postes qui sont les moins payés, sont encore, on l'a vu, les travailleuses pauvres, et elles sont par exemple 80% à occuper les temps partiels, hein, donc bien moins payées. Enfin, la mise en perspective d'un processus de décrochage des filles de l'espace public à l'adolescence engage une réflexion compréhensive sur l'invisibilité publique des femmes à l'âge adulte. Donc ça aussi, les pouvoirs publics qui financent, mettent en place ces espaces doivent également s'interroger sur les effets que produisent ces équipements, presque uniquement masculins, sur la diffusion et le maintien des cultures masculines basées sur une hypervirilisation. C'est ce qu'on appelle la performance du genre. Va alors se confronter à travers une régulation assez violente ce qu'est être une fille et ce qu'est être un garçon, et interdire alors toute pratique hors norme de genre. Donc comment une société peut-elle aujourd'hui accepter et consentir que ces garçons ne dansent pas ? Voilà, donc ensuite j'ai une partie sur les préconisations, mais je préfère qu'on en discute ensemble. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup. Alors, moi, c'est la première fois que je t'entends parler de ta recherche. Et ça pose... Alors, on peut répondre comme ça, c'est très complexe, mais quand on dit c'est très complexe et qu'on s'en limite là, c'est pour dire, bon, c'est complexe, on n'en parle pas, c'est bon. Mais c'est complexe, justement, parce que, comme dit Edgar Morin, ça nous pousse aussi à la stratégie. Hein. Et quelques remarques, hein, quelques réactions. La première, c'est... Effectivement, je pense qu'il faut faire la différence entre les filles ont le choix de faire toutes les activités qu'elles veulent et, autre chose, les filles et les garçons font ensemble la même activité. Est-ce que l'offre, est-ce que les filles ont la possibilité, au moins quand elles le veulent, de faire toutes les activités qu'elles veulent? Ça, c'est la première chose. Après, c'est, est-ce que toutes les activités qui sont proposées aux garçons sont des activités qui peuvent se faire entre garçons et filles? On est quand même... Il y a deux questions là.
C'est la question de l'égalité.
Ouais. Alors l'autre question, c'est... Alors, je ne parle plus avec la casquette anthropologue, c'est la casquette du père. Parce que je suis père de famille, j'ai ma fille qui fait du handball. J'ai bien vu d'ailleurs le rapport avec le handball sur ton truc. C'est 29 pour les filles et 56 pour les garçons. Voilà. Et justement, moi, je confirme que bon, ma fille, elle joue bien du handball, elle adore ça. Son frère en fait aussi. Et jusqu'à l'âge de 11 ans, l'entraîneur venait la trouver pour qu'elle joue, elle remplaçait des garçons quand il n'y avait pas. Et au départ, les garçons ne voulaient pas lui donner la balle. Et puis quand ils se sont rendus compte qu'elle joue très très bien, c'est les garçons qui venaient la chercher. Mais maintenant qu'elle a 14 ans, c'est fini ça. C'est-à-dire... À partir de 14 ans, c'est les filles et les garçons. Donc, elle a la possibilité de faire du handball avec les garçons, avec les filles aussi, mais à partir d'un certain âge, même si elle le veut, parce qu'elle a envie, elle a des copains, avec, elle le veut. C'est-à-dire les règles qui sont implicites, tacites, etc., font que... Alors, qu'elle ne peut plus le faire. Et pourtant, on aurait pu penser que justement, dès lors que les gamins ont été éduqués, dans le prime âge, à travailler ensemble, à faire sport ensemble, qu'on puisse faire perdurer la chose. Donc, derrière ça, je comprends bien la question que tu poses, mais qui interroge nos sociétés. Quelle est la place du sport, du point de vue éthique? C'est-à-dire, quelle est la place du sport? Regardez, on vient de sortir des Jeux, des JO. On voit bien qu'il y a toujours non seulement des activités qui sont marquées de manière féminine, mais aussi on a aussi des activités séparées. Et on va compter en termes de sport, truc qu'on va battre quoi, les records en fonction si on est un garçon ou une fille. Mais ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la place du sport. Si aujourd'hui le sport est marqué par la compétition, qu'il faut gagner, qu'il y a de l'argent, que c'est politique parce que aussi il faut que les grands peuples montrent qu'ils sont supérieurs même du point de vue sport aux petits peuples, on verra aussi ces incidences juste dans les rapports de genre. Donc, dans ce que tu dis là, tu interroges aussi, j'espère qu'il y a des élus, notamment, je ne sais pas s'il y a des élus chargés du sport, on a un ministère de l'éducation populaire et du sport, ça interroge quand même la place du sport dans nos sociétés. Est-ce que c'est simplement pour, c'est essentiellement, et c'est important, pour entretenir le corps, vivre ensemble, courir ensemble, parce qu'on le voit, hein, de temps en temps, quand c'est possible, dans les activités sportives populaires, il y a de temps en temps un début de mixité. Mais dès lors qu'on passe de ce domaine-là à un domaine où il faut battre, gagner, là, le handicapé ne court pas. Moi, j'étais très content de voir la personne avec ses prothèses, mais ça se fera jamais tout le temps. Mais parce que ça rapporte pas financièrement. Ça peut rapporter symboliquement, ça peut rapporter à l'agence, à ceux qui ont travaillé là-dessus financièrement, mais on peut pas le faire tout le temps. Voilà. Donc vous voyez, je pense que dans ce que tu racontes, il y a aussi une interrogation de manière éthique de comment nos sociétés voient le simple fait de faire du sport. Alors ça c'est vraiment une question qui est posée. Alors voilà. Est-ce que si vous avez la parole est ouverte hein, sur à la fois ça peut être aussi des témoignages ou des questions. Qui veut dire quelque chose, des désaccords aussi.
Oui, je parle bien dans le micro. Ouais, je m'appelle Valérie Ministrini. Et puis je voudrais rajouter une chose, c'est qu'on se rend compte aussi dès le plus jeune âge que ça commence en fait, rien qu'au niveau des jouets. Quand on se rend dans les magasins de jouets, il y a tous les rayons roses pour les filles et tous les rayons bleus pour les garçons. Donc déjà les choix déjà sont prédéfinis lorsque les enfants viennent au monde. On propose aux filles des fers à repasser, des aspirateurs, enfin tout ce qu'il faut pour faire le ménage et la cuisine. Et aux garçons, on leur propose les véhicules, enfin des jeux bien plus passionnants. Donc je pense que ce serait dès la petite enfance qu'il faudrait réagir. Et pour ça, passer par les écoles et bien leur faire ancrer dans l'esprit qu'il n'y a pas des activités ou du matériel pour filles et pour garçons. Voilà, qui grandissent avec cette idée et ça deviendrait un petit peu plus naturel, je pense.
Juste pour témoigner quand même, Magui, sur la danse, pour te montrer que même dans nos pays africains, on dit que la danse, le rythme est dans la peau. Non, c'est pas dans la peau, c'est dans le tempo. Juste pour le grand. Et on se rend compte, chez moi, au Sénégal, on va danser, les garçons et les filles vont danser jusqu'à un certain âge. À partir de 30 ans, et je t'assure, à partir de 30 ans, il y a une frange de personnes fous, folles comme moi, qui vont continuer à danser. Et les autres, non, on ne danse plus. Les hommes, ah non. Et je trouve que cette question du genre revient même dans des pays où on pense que la danse, elle est présente tout le temps. Non, les hommes ne dansent plus en certain temps. C'est les femmes qui vont continuer à danser. Parce que, mais tant qu'on est jeune, c'est possible. Mais en certain moment, faire bouger le corps, montrer le corps, devient une activité que pour les femmes. Comme si les hommes n'avaient pas besoin de montrer leur corps, quoi. Hein. Et donc ça aussi, c'est des représentations qui traversent les frontières. Hein. Et donc il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là, sur le regard qu'on a de danser, simplement danser, parce qu'on a envie de vivre avec son corps. Ça, c'est pas seulement le fait de montrer son corps, c'est danser. C'est une forme d'expression. En tout cas, moi, je danse encore. À 52 ans, je continue à danser, et c'est une forme d'expression extraordinaire. Et ce n'est pas seulement donné aux femmes. Mais c'est un travail à faire, hein, parce que c'est que dans ma propre famille, ils sont des fois, gênés de me voir sur les photos en train de danser. Parce que dans notre propre communauté, à 50 ans, on ne danse pas. Quoi. C'est les femmes. Les femmes, par contre, elles peuvent danser, il n'y a pas de problème. Donc, pour vous dire que les représentations aussi, l'exotisme qu'on fait sur l'Afrique, il faut quand même la dépasser. Ce n'est pas toujours ce qu'on pense. Quoi.
Par rapport à la mixité, il me semble, la mixité dans l'éducation nationale est en régression, sans que ce soit évidemment massif, mais je ne sais pas s'il y aurait des enseignants d'éducation physique qui seraient ici, mais il y a un nombre non négligeable d'enseignants d'éducation physique qui militent, et il y a des collèges dans lesquels les élèves garçons et les élèves filles n'ont pas leur cours d'éducation physique ensemble. Dans les années 70, c'était pas pensable, une chose pareille. Alors moi, je trouve ça effectivement très inquiétant. Les raisons qui sont apportées par les enseignants qui souhaitent séparer filles et garçons dans les activités sportives sont que il y aurait une violence des garçons à l'égard des filles, notamment au niveau verbal, des moqueries, comme du fait que les filles sont formées, comme on dit, selon ce drôle de mot, sont formées plus jeunes que les garçons. Et donc, si on met des tranches d'âge égales, quoi, garçon-fille, ça crée des conflits, des problèmes, des humiliations pour les filles, enfin bon, tout un tas de choses comme ça qui sont avancées pour justifier le... c'est plus la question de la compétition, parce que c'est, les enseignants qui parlent comme ça sont même assez fréquemment des enseignantes qui ont une philosophie de l'éducation physique pas tournée vers la compétition, le fait de gagner à tout prix, etc., mais au contraire sur l'idée que l'éducation physique doit permettre de développer les potentialités de chacun, etc. Et donc dans ce climat de violence, au moins verbale, entre garçons et filles, ils trouvent un argument pour justifier la séparation des garçons et des filles en éducation physique.
Justement, là, est-ce qu'on n'est pas dans ce qu'on a pas appelé un problème d'évitement, parce que on va essayer de trouver des arguments pour éviter d'approcher la véritable question de l'éducation des garçons et des filles. Je pense que dans ton travail, cela ressort sur comment les garçons et les filles se représentent aussi, pour expliquer ces moqueries.
Sinon, il n'y a pas de... Vous pouvez vous répondre entre vous aussi, hein. Je n'ai pas la science infuse. Hein. Voilà. Non, mais juste pour cette question de la mixité à l'école, bien sûr, ma première préoccupation, elle a été celle-là aussi, puisque moi, ça fait quand même des années que je me rends compte que les loisirs des jeunes ne sont pas mixtes et sont stéréotypés, hein, puisque c'est le regard que j'applique dans ma vie. La question de l'entrée au collège, on voit quand même que le collège est mixte dans notre pays. Donc la question du décret de la mixité en 76 dans les écoles, elle s'est faite sur la base d'une rentabilité de l'école, de l'équipement public, hein, scolaire, notamment dans le rural. Si vous voulez, ça coûtait trop cher en fait d'avoir une école de filles, une école de garçons. Et donc on décrète en 76 que les établissements seront mixtes. Ce qui se passe, et là on le voit bien et on peut probablement en discuter ensemble aussi, c'est qu'il n'y a pas de projet. Hein. Et c'est ce que j'ai dit, mettre ensemble sans avoir un projet, c'est-à-dire la déconstruction des stéréotypes, etc. Et je suis d'accord avec vous, bien sûr, je pense que tout le monde aura compris aussi que j'ai quand même une pensée, une préoccupation féministe, hein, puisque je le suis. Cette question, en fait, de la construction de ce qu'on appelle « qu'est-ce qu'être une fille, qu'est-ce qu'être un garçon ?» de la naissance, lorsqu'on passe par l'équipement scolaire, hein, nos enfants passent du temps à l'école, ça ne permet pas non plus de proposer une alternative. Donc moi, la question que je pose, c'est où en fait le système public, la dépense publique, où le système éducatif propose une alternative aux filles et aux garçons en leur disant tu peux être autrement que ça. La question, donc moi je suis tout à fait d'accord, c'est l'évitement, hein, c'est-à-dire que en évitant de mettre ensemble des filles et garçons, et c'est donc toute la théorie aussi dans l'éducation nationale, chaque année, mais à la rentrée vous aurez un article, hein, donc vous avez quand même des grands pédopsychiatres qui vous expliquent que les garçons échouent à l'école parce que c'est des femmes qui leur transmettent le savoir, donc ou parce que c'est les mamans qui font faire les devoirs le soir. Donc question, pourquoi sont-ce encore les mamans qui font faire les devoirs le soir? Bon, enfin voilà, vous voyez, c'est quand même des questions qui sont à débattre, hein, la question de l'évitement. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la non-mixité, peut-être qu'on en aura des témoignages ici ou peut-être pas parce que c'est difficile, mais les garçons entre eux se font aussi subir des choses très violentes, hein, et que c'est pas, et que de pas vouloir résoudre la violence entre des êtres humains en les séparant, eh bien c'est très très violent. Voilà, et que c'est bien pour ça que je défends le principe de mixité dans mon travail. Voilà, d'être ensemble.
Oui, non, c'était simplement pour compléter ce qu'avait dit madame. Bon, dans l'éducation nationale, il y a les professeurs d'éducation physique ont quand même des groupes, des cellules de réflexion sur ce sujet de la mixité pour le sport, je parle surtout. C'est un problème qui les préoccupe. Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est plus ancien? Je ne sais pas. Par ailleurs, je pense que peut-être il y a, dans l'évolution que vous dites avoir constatée au niveau de l'enseignement du sport, il y a peut-être aussi quelque chose qui tient à la mixité des personnes qui fréquentent l'école et où il y a des gens de cultures différentes et où le problème aussi ajoute peut-être d'autres éléments.
Je vous remercie de me poser cette question, madame, parce que c'est aussi quelque chose qui est très important à comprendre dans mon travail, hein, c'est que souvent, hein, cette question, comment dire, fille-garçon, elle est abordée, elle est masquée, justifiée ou abordée sous l'angle de l'interculturalité ou l'ethnisation, je ne sais pas comment on peut dire, ou du communautarisme. Donc moi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai donc étudié trois territoires, dont un territoire, pour être tout à fait clair, a six fois moins de population étrangère. Hein, au truc de l'INSEE, là, je crois, 5 ou 7 fois moins de population immigrée que les deux autres communes sur lesquelles j'ai travaillé, et on retrouve exactement les mêmes stéréotypes de sexués. C'est une commune aussi qui est privilégiée socialement. Hein, c'est une des communes de la CUB qui relève le plus d'impôts, hein, sur le revenu, donc par rapport à des communes de la rive droite. Par déontologie et par souci, en fait, parce que ces communes volontaires, voilà, on dit aussi des résultats, mais elles ont été volontaires au regard, je ne les cite pas, mais tout le monde aura compris que la rive droite, il n'y a pas non plus 106 000 communes, voilà, bon. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien les quartiers qui ont été, les communes qui ont été comparées, hein. Donc, je pense que cette question-là, elle se pose à notre société française, hein, donc ensemble, co-citoyens et co-citoyennes, elle se pose aussi dans l'endroit où on est au moment où on est. Voilà. Donc en tant que professionnel, quand j'agis avec des jeunes, quand je mets en place un programme, est-ce que je me pose la question de les faire danser ensemble? Est-ce que je me pose la question de recevoir des filles et des garçons? Vous voyez ce que je veux dire? Et de toute façon, la question de l'ethnisation ou la question culturelle, elle se pose pas dans l'espace laïque. Donc les espaces de loisirs des jeunes sont des espaces laïques au même titre que les collèges et l'école. En tout cas, dans la loi républicaine.
Bonjour, alors je suis Christine Bouquet, je suis la présidente de ce centre social. Moi je voulais dire que je ne sais pas s'il y a des remèdes miracles, des solutions qui feraient que effectivement ça pourrait être mixte, du petit au plus vieux. Ce que je me dis moi, c'est que de toute façon, moi j'ai envie que ça soit comme ça. Donc voilà, donc quand par exemple il y a des gamins et gamines qui sont dans le centre social, il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire que je leur pose pas la question. Et je ne pose pas la question aux animateurs. Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire, on fait du rugby avec drop de béton, ça sera filles et garçons. On fait de la danse, ça sera filles et garçons. Voilà. Alors je sais pas si ça c'est une des solutions, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut pas il faut plus poser de questions et savoir s'il y a des choses qui seraient miraculeuses à mettre en place pour entraîner vers cette mixité là. Je crois qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a des choses à imposer. C'est comme ça. Point final. On a décidé qu'ici, dans le centre social, ça serait mélangé. Alors par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est vrai avec les adolescents, parce que de toute façon, les adolescents, ils échappent même au centre social. Voilà le problème. C'est que la vraie question, c'est peut-être ça aussi. C'est est-ce que les adolescents maintenant très jeunes, hein, parce qu'ils sont adolescents très jeunes en fait et très vieux. Donc voilà. Donc est-ce que ces adolescents-là, de toute façon, n'échappent pas? De toute façon, à ce qu'il y ait comme ça de rassemblement de jeunes dans un centre social, même dans un club sportif, ou ainsi de suite. J'ai l'impression, moi, que de plus en plus, ces petits jeunes-là, ces petits ados-là, veulent échapper à ça. C'est-à-dire, ils veulent essayer de mener une vie à l'extérieur de tout. Alors, moi, mon problème, c'est plutôt ça. C'est plutôt comment ramener filles et garçons de cet âge-là, déjà, à l'intérieur d'un groupe structuré, même si c'est eux, par exemple, qui montent des projets, ils ont déjà pas tellement envie, enfin, on dirait, hein, je sais pas, qu'ils ont pas tellement envie déjà de se retrouver dans un truc très structuré pour monter leur projet. Ils sont quasiment plus à l'aise à être assis sur un banc à l'extérieur et à discuter entre eux en disant, voilà, on va essayer de faire ceci ou de faire cela. Et ils ont beaucoup de mal ensuite à réintégrer des structures où on peut les aider effectivement à monter ces projets. Donc moi, ma vraie difficulté, c'est plutôt de me dire, déjà, les ados échappent à ça. Voilà. Après pour ce qui est des plus petits des petits enfants de 6 à 12 13 ans, je crois qu'il faut pas donner le choix. C'est comme ça. On mélange, on fait tout ensemble. Autrement si on les écoute, effectivement ils ont déjà pas envie de trop de se mélanger. Quand nous on fait du rugby avec drop de béton, les petits garçons de 7 ans, ils commencent à dire mais pas avec les filles. Donc c'est non. T'es pas content mais c'est comme ça. Tu feras avec les filles. Voilà.
Alors, si on dit il faut pas donner le choix, mais est-ce que ça signifie que du point de vue du législateur, de celui qui finance, revenir sur les critères d'attribution ou d'arbitrage? Je sais que pour le facile, par exemple, pour prendre une autre forme de discrimination ethnico-raciale, etc., le facile de l'ancien face disait si on vous finance, il faut nous montrer combien de pourcentage d'immigrés, etc. Est-ce que ça signifie, en termes de préconisation, une action positive claire que le Conseil général, le Conseil régional, l'État, le ministère disent, si on vous finance pour faire de l'activité sportive, il faut respecter ce critère de mixité. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Est-ce que c'est des choses que tu perçois dans tes préconisations?
Non, mais je pense que tu as tout à fait répondu aux préconisations. Je pense que la première, moi c'est toujours ce que je dis, la première chose à faire, c'est d'abord de consentir ensemble que ça existe. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une problématique dans notre pays de mixité, hein, et qui va être durable après, hein, sur l'espace des adultes aussi, je le répète. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, le loisir des femmes, quand même, ça reste un loisir mère. Hein, donc, on le voit aussi au centre. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités d'émancipation, etc., mais c'est beaucoup plus compliqué encore pour les femmes d'occuper l'espace public. On le voit sur toutes les études qui sont menées, par exemple sur la légitimité d'être en ville la nuit, la légitimité de prendre un verre le soir, d'aller au restaurant. Voilà, on est quand même, c'est quand même de notre pays dont on parle. Donc la première chose, c'est de dire ensemble, effectivement, il n'y a pas de mixité. Enfin, il y a une problématique de mixité et une problématique d'inégalité par là même aussi. Et ensuite, c'est de consentir que cette question de la place des filles, mais on a bien compris, en miroir aussi d'une autre société, c'est-à-dire où les garçons non plus ne sont pas obligés d'être toujours dans leur stéréotype, hein, que cette place des filles, elle est importante, elle a une valeur pour notre société. Est-il important, enfin, est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui qu'une fille, au même titre qu'un garçon, puisse faire du football, du rugby, du basket? Est-ce que c'est important vraiment? Parce que ça, je pense que c'est vraiment une question qu'on doit se poser. C'est ça la question de l'égalité. hein, comme on la pose dans d'autres secteurs aussi. Mais vraiment, est-ce que cette place-là, la place des femmes et des jeunes filles, au même titre que les hommes et les jeunes garçons, est importante pour nous? Ensuite, la question de la contrainte, j'ai envie de dire, entre guillemets. Donc on voit bien aujourd'hui, ça a été tout le débat sur la parité, hein, qui était un débat intéressant aussi, hein, c'est-à-dire après ce que je vous ai dit, hein, sur les lois professionnelles, etc., après mai 68, après 70, imposé en 2000 une loi en parité politique, ça fait quand même 30 ans où effectivement les choses n'avaient pas bougé. Donc il faut savoir que c'est pas linéaire, cette question-là. Il y a des régressions, il y a des retours, vous le dites, hein, qu'à un moment donné, on accepte que dans un espace d'éducation ensemble, d'éducation nationale, on sépare les filles et les garçons, mais on le voit, ils sont séparés aussi au lycée, avec les lycées technologiques, etc., avec les orientations qui sont complètement stéréotypées. Ils sont parfois séparés en classe. Hein, c'est-à-dire, il y a des classes où d'un côté les garçons assis et de l'autre les filles. Ça veut dire que l'enseignant et l'enseignante l'acceptent, ça. Hein, donc c'est vraiment une question aussi qu'on doit se poser. Moi, je pense que ça se passe sur la base d'une discussion ensemble, d'un débat avec les équipes professionnelles sur la question de la formation aussi, parce qu'on n'est pas formé à cette question-là, c'est-à-dire, quand je parle de division sexuelle du travail, ça veut dire, est-ce que c'est toujours l'animateur, est-ce qu'il y a des équipes mixtes, est-ce que c'est toujours l'animateur garçon qui fait l'activité sportive à l'extérieur, est-ce que, on renverse les rôles aussi, on propose quelque chose de différent en tant qu'adulte, puisque c'est la question aux adultes qui est posée, pas aux jeunes. Qu'est-ce que montre l'adulte dans cette question-là? Donc ça, je pense que c'est... Donc il faut passer par la formation. La formation, ça peut être des financements qui sont par l'État, par le Conseil général. Je pense qu'effectivement, on peut aussi aujourd'hui se poser la question et se dire ces lieux-là, on a créé des maisons des jeunes et avec un projet, hein, de vivre ensemble, de co-citoyenneté, aujourd'hui dans l'usage, on en voit ça. Donc qu'en est-il du projet de ces maisons des jeunes? Doit-on reconstruire le projet? Doit-on changer l'usage aussi de ces équipements? Et c'est toute la question aussi de la construction des city-stades et des skate-parks dans notre pays, hein, qui a un coût quand même pour l'ensemble de nous, hein, de nous tous, et qui n'arrête pas, qui foisonne sans se poser la question de la cristallisation, de la légitimation d'un espace masculin dans l'espace public. Voilà.
Juste pour, je ne sais pas si Edith, à partir de son travail, qui est un travail intéressant, elle a parlé de préconisations. Moi, ça m'intéresse un petit peu au moins 3 ou 4 préconisations. Non, si vous pouvez les citer, parce que c'est intéressant de voir à partir de ce travail, qu'est-ce qui a été...
Les solutions.
Non, les préconisations, ça n'a jamais été une solution immédiate. Nous, sur le travail de terrain, on a aussi des préconisations, mais bon, on peut en discuter.
J'ai répondu, en fait, Fatih. Voilà. J'ai... Oui, il y a la formation, mais il y a aussi, je pense, on l'a dit, hein, c'est un débat avec les équipes professionnelles. Ce sont des projets pédagogiques qui sont basés sur la question de la place des filles directement dans l'animation et le loisir. Au niveau sportif, je pense qu'il faut tout mettre à plat et tout repenser, c'est-à-dire essayer de réfléchir, on l'a dit, hein, qu'est-ce que c'est l'activité sportive dans notre pays, hein, l'activité physique et sportive, la question de la compétition, si on a 2 équipes mixtes qui se rencontrent, puisque bien sûr, il peut toujours y avoir le challenge du jeu, hein, de la gagne, pourquoi pas, mais 2 équipes mixtes, on voit bien qu'elles sont équilibrées, hein, c'est la question aussi de la place des personnes qui sont pas fortes physiquement, qui sont un peu fortes, qui sont, voilà, je sais pas, qui sont pas non plus dans une grande compétence par rapport à ces acquisitions-là. Et je pense que la question de la formation, elle est cruciale. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est en débattant ensemble qu'on déconstruit aussi, qu'on réfléchit. On dit je veux mélanger, puis on mélange et en mélangeant, on n'a pas forcément le résultat de la déconstruction des stéréotypes. Il faut comprendre comment ça se construit. Il faut comprendre aussi comment la valeur différentielle des sexes est dans notre société, c'est-à-dire comment on valorise encore un peu plus les garçons aujourd'hui que les filles, comprendre que le rapport à l'autre n'est pas non plus toujours dans la virilisation, et puis moi je crois aussi que, en tout cas moi c'est ce que je pose aux gouvernants, à ce que j'appelle la gouvernance, je crois que les politiques publiques ont à afficher une politique publique en direction de la place des jeunes filles et des femmes dans cette société en disant, ben voilà, effectivement on va vous donner des outils, on va y réfléchir ensemble et on financera aussi sur tel et tel critère, quoi. Mais après, toutes les solutions, on les trouve ensemble, Fatih. Ça, c'est dans l'échange.
Moi, le grand gâchis que je vois, enfin, le l'expérience qu'on a dans les centres sociaux depuis des années, le grand gâchis, c'est de créer des passerelles, c'est-à-dire le lien entre les établissements scolaires, qui est un pôle éducatif, et les espaces publics. Et tu le sais très bien dans les politiques où tu as travaillé dans la collectivité, ce gâchis de travailler avec les établissements scolaires. La question ne se limite pas au projet d'un espace ou d'un centre d'animation, etc. C'est-à-dire, il y a des financements. Regardez, par exemple, si on prend les clubs de prévention, on prend les établissements scolaires, primaires et collèges, on prend les centres sociaux, les centres d'animation, les MJC, il y a de quoi faire, je veux dire. Mais la difficulté, c'est comment travailler ensemble. Et c'est là où on peut impulser quelque chose au niveau de la mixité, en partant de l'école.